podcast.com. Essaye ça.
Hey, c'est pas la trame sonore la plus longue qui existe, ça, mais t'en as une qu'on reconnaît, qu'on a entendu des heures et des heures durant. On est en train d'écouter Terrain Basique, Dr. Mario, la première version ONF. Hey, ben oui, vous avez reconnu sûrement la voix d'Emmanuel Côté-Séguin. Salut, Emmanuel.
Bonsoir.
Et de Jason Keys, vous êtes à Terrain Basique, le plus québécois des podcasts sur Magic the Gathering.
De Noël.
Ben oui, on est quand même Noël. C'est des moments quand même assez particuliers, on pourrait dire. On a eu des grosses nouvelles dans les...
On a eu un drôle de cadeau pour Noël.
Oui, effectivement. Moi, d'ailleurs, personnellement, présentement, j'ai pas mal l'impression que j'ai suivi l'exemple de mes deux colocs et j'ai attrapé la COVID-19. Heureusement, je suis plein vacciné. Nonours aussi, hein? Oui, c'est ça, il n'y aura pas de... Ça devrait bien aller, là. On reste très optimiste, c'est juste ça.
Si on se fie aux statistiques, c'était dû pour arriver, là. Il y en a...
Ouais.
Les chiffres grossissent.
Mais effectivement, il n'y a pas que les chiffres. Moi, ça fait une couple d'années que je fais ça.
La pandémie est dure, hein?
Fait que, ben écoutez, messieurs, on va parler de Magic the Gathering un petit peu, hein? Il y a comme des nouvelles à gauche, il y a des spoilers à droite... Il y a aussi Arena qui a été brisé. Je ne sais pas si vous suivez notre page Facebook aussi, vous devriez. Là, si vous écoutez le podcast, ben, à moins que vous n'ayez pas Facebook, il y a du monde qui font cette décision-là. C'est une bonne manière.
De plus en plus.
Oui, oui. Pour se trouver des collègues joueurs de Magic. Mais ben, écoutez, on veut remercier notre ami, hein, c'est Sébastien ici à Terrain Basique qui a fait une série sur les 12 travaux. D'Astérix.
Il a commencé ça. C'est un calendrier de l'Avent. En fait, l'idée venait de moi, mais il a répondu à la commande avec enthousiasme. On s'est dit, tu sais, les 12 travaux d'Astérix, c'est le classique de Noël là, que Télé-Québec passe à chaque temps des fêtes depuis 40 ans. Mm-hmm. C'est un vieux restant de table que j'ai toujours ben, du fun à regarder. Puis là, on s'est dit, ben, tu sais, comme tant qu'à faire des fausses cartes, on a fait un calendrier de l'Avent thématique, les 12 travaux d'Astérix. Où ce que le set il se tient tout seul. Là. Le but, c'est d'accomplir les 12 travaux qui sont des enchantements et de les mettre dans la pile travaux. Et quand tu as les 12, tu win the game. Puis il y a une couple de cartes aussi thématiques autour là, qui, par exemple, la potion magique ne peut pas nous aider ici. Hein. Donc, vous irez voir sur notre Facebook. Là, on en sort un par jour jusqu'au 25 décembre. Et le 25 décembre, on va sortir là, la dernière carte qui est Jules César prend sa retraite dans sa villa. On remercie beaucoup Sébastien Potvin qui c'est selon moi là, un des top faiseurs de fausses cartes. Ben, pas de fausses cartes, là, mais tu sais, des cartes, je ne sais pas comment appeler ça, parce que c'est pas nécessairement cartes. Des fausses cartes, là, mais c'est des pastiches.
C'est comme de la fanfiction.
Artisanale.
De quoi?
Des cartes artisanales.
Des cartes artisanales, c'est ouais. J'aime beaucoup ce qui produit, puis il y a de la suite dans les idées. Donc, on vous invite à aller liker ça et partager ça avec vos amis fans de les 12 travaux. Puis vous pouvez même les imprimer et jouer avec. C'est cohérent, les 25 cartes, là, ils se tiennent ensemble.
Ça revient quand même pas mal tough à compléter.
Oui, c'est à peu près impossible, mais...
Tu gagnes la game.
Si quelqu'un réussit, il nous écrira.
Ben oui, c'est sûr, il faut les imprimer avant. Ben merci beaucoup à Sébastien. Je ne sais pas de quoi parler après ça. Emmanuel, tu nous as parlé d'une affaire qui est arrivée sur Arena. Hein?
Ah ben écoute,
catastrophe.
À chaque semaine, c'est la question qu'est-ce qui va briser sur Arena cette semaine. Puis là, dernièrement, ils ont trouvé une nouvelle façon de briser le jeu. Puis c'était pas volontaire là, comme en imprimant des nouvelles cartes de Alchemy. Là, c'était involontaire. C'est une carte qui s'est retrouvée à marcher un peu tout croche. On se rappelle de Jadar, Goldcaller of Nephalia, c'était dans Midnight Hunt.
Oui.
Un colorless, un noir pour une 1-1 qu'à la fin de ton end step, si tu contrôles pas de créature avec Decade, tu te fais un token zombie 2-2 avec Decade. Là, tout d'un coup, à la place de faire ça, si tu avais zéro token, ça en faisait pas. Et puis, si tu en avais, ben ça les doublait.
Ah, et puis doubler
à chaque tour. Vite,
wow, c'est ça.
À chaque tour. Puis là, c'est comme tomber en même temps qu'ils ont sorti un event. Ils font un décathlon pour le temps des fêtes, qui est un événement quand même cool. Là. C'est des événements que tu peux rentrer pour une petite somme, là, pas trop cher. Il y a des événements limited de Phantom Draft en ce moment, de traditionnel. Midnight Hunt, justement, je crois. Puis là, il y avait un sealed. Ils ont fait un sealed qui n'était pas le double feature, mais double feature. On se rappelle qu'ils vont sortir en janvier.
Ah oui,
les
beaux.
Les deux sets de wow, Midnight Hunt puis Crimson Vow ramassés ensemble dans un double feature, mais ça va juste sortir en papier. La surprise de tout le monde, parce que les cartes sont déjà sur Arena, donc pourquoi pas le faire aussi là. Mais là, on en a eu un petit teaser là, avec cet événement-là qui était un sealed event que tu prenais trois cartes de Midnight Hunt, trois paquets de Midnight Hunt puis trois paquets de Crimson Vow. Et c'était très le fun comme format. J'ai joué un peu, j'ai regardé du monde y jouer et ça faisait un format un peu plus lent que Midnight Hunt l'était, un peu plus balancé aussi. C'est bien le fun. Puis ça te fait réfléchir un peu. Bon, c'était quoi qui était déjà dans le set d'avant? Parce que c'est pas long quand tu draftes un set beaucoup. T'oublies le set d'avant, là.
Oui, c'est vrai.
Fait que là, mais c'est ça. Mais là, tu sais, il y a du monde qui se sont ramassés avec Jadar sur le terrain. Puis quand comme, me semble que c'est pas de même, ça marche, ce 4-là.
Oui. Surtout si tu t'attends à avoir ton token, puis t'en as pas, là. C'est
ouais,
une
voilà,
très mauvaise mais... surprise. Mais là, si tu pensais en avoir un de plus, puis que finalement, non, en fait, c'est qu'il faut pas que t'en ailles, puis ça t'en donne un. C'est ça?
Oui.
C'est ça. Lui, à la fin de ton tour, t'as un minimum.
Fait que tu t'arranges pour attaquer avec, le sacrifies pour en avoir un autre. Mais oui. Fait que, écoute.
Un monstre.
Tribulation d'un tôt, programme. Qui a de la misère.
Ça aurait été pratique dans le temps du début, ça, avec le Lord of the Pit. C'était un challenge, j'ai trouvé comme une manière d'avoir un monstre à sacrifier. Puis quand ils ont fait Homeland, il y avait. Non, c'est dans Fallen Empire.
Il y avait
le Breeding Pit. Là, ouais, c'est ça.
Trois colorless,
il faut que tu payes deux noirs dans ton upkeep, puis il te donne un Trull 0-1, je pense.
Ça me rappelle une draft que j'ai faite à la fin de semaine passée, justement. On parle de gros démons qui sacrifient des créatures. J'ai pogné le Dreadfast Demon, le 6-6 Flying pour 6 colorless, un noir. C'est dans Crimson Vow.
Ah oui, quand
à la fin de ton upkeep, tu peux sacrifier. En fait, t'as pas le choix. Tu sacrifies un non-demon creature et tu crées un token qui est une copie du Dreadfast Demon. Fait que là, après ça, à la fin de ton autre tour, ben, si t'en as deux, ben là, tu sacrifies deux autres créatures pour faire. Dans le fond, tu transformes toutes tes créatures en 6-6 flying. Puis le problème, ben, c'est ça, c'est d'avoir des créatures pour les nourrir. Mais j'avais drafté également deux Stanzia's Uprising, qui est l'enchantement rouge, trois colorless, un rouge, qu'à la fin de ton end step, tu fais un 1-1 human token. Puis si t'en as 13, tu peux le sacrifier pour faire 7 de dégâts à n'importe quel target. Mais là, ça faisait que je créais deux tokens humains que je sacrifiais au démon pour faire une armée de démons à chaque fois.
Puis c'est logique aussi que ce soit des humains qui soient pervertis par le démon qui va jouer dans leur cœur, plus que comme une peste 1-1 ou un zombie decade. Là, c'est bon, Emmanuel, pas mal bon. Ce qu'il
a. J'ai eu bien du fun. La game que j'ai eu toutes ces cartes-là sur le board en même temps, ça a bien été.
Il y a peut-être quelqu'un à l'autre bout qui a fait Ah, ouais!
Voyons, non!
Il y a
arrangé!
Il y a notre pote Johnny Machine, Yanis, qui avait fait un draft avec nous, qui a travaillé dans un magasin à Sherbrooke dans le temps. Lui, il joue construit, là, mais tu sais, standard, là, puis, sur Arena. Et il s'est fait un deck avec le peut-être tu vas pouvoir le mettre à l'écran, là, le Butcher, là, c'est le un noir, un blanc, puis quand tu sacrifies une créature, il pogne +2/+2. Puis
quel set
dans le dernier, là, dans Ben, moi, c'est peut-être pas Butcher, par contre.
Ouais, c'est
un des. C'est un des lieutenants Orzov là, qu'on peut drafter ces temps-ci dans le.
Quelle couleur?
Il est blanc-noir.
Il y a le Purifier dans le dernier set, c'est la seule carte qui est blanc-noir.
C'est peut-être
qui,
ça. C'est
qui
peut-être.
Gagne plus un counter quand tu gagnes un.
Celui-là. Mais
non, c'est à la fin de ton tour.
Non.
Il y a deux.
Ouais, c'est celui qui a un masque de vache, là.
Ah oui, ok, ça c'est dans Midnight Hunt. C'est Flesh Taker.
Flesh Taker. Ah oui, oui, Flesh Taker. Oh, bon. Oui.
On va finir par. Je vais être capable
de parler
de son plan. Ça m'avait quand même pas mal impressionné parce que. Il dit que il gagne vraiment plein de games. Puis la gimmick, c'est que il prend des. Il y a comme trois couleurs, là, bleu, noir et blanc. Et toutes les zombies decayed, quand t'es sacrifié à la fin du tour, ça compte, ça trigger son affaire à lui. Fait que tu sais, ça fait qu'il gagne plein d'énergie, puis il peut se crailler tout plein, puis ça lui permet d'aller chercher son Meatook Massacre, puis de rendre son Flush Taker juste un petit peu plus fort que le Meatook Massacre, puis tout. En tout cas, il m'a dit qu'il finit quand même très haut ces temps-ci avec un combo. Puis là, je me suis dit que c'est vrai, c'est comme un désavantage des tokens. Decade, mais ça peut être comme appliqué ailleurs de d'autres façons.
Ben, ça sert à se faire sacrifier. Là.
Ben oui, oui.
Pas mal que ça soit.
Si vous n'avez pas compris ça, il est même écrit dessus à la carte que ça va servir à ça.
dans Midnight Hunt, il servait à se faire taper pour activer des affaires. Hein.
Mm-hmm. Ouais, c'était le fun, ça. Mm-hmm. Moi, j'ai bien aimé Midnight Hunt.
C'est fou, pareil, que tu te ramasses à souvent aussi lui donner des véhicules à crewer.
Oui.
On se conduit au volant, mon gars.
Conduit ce bateau.
Oui, c'est ça. Ben, écoutez, moi, j'ai rien d'autre à dire.
Non, mais moi, j'ai fait un gros ménage de notre chaîne YouTube dernièrement. Là.
Bon.
Puisqu'on a vraiment beaucoup, une charrée de vidéos. Là. Comme tu sais, ça s'empilait pas mal.
T'as fait des playlists.
Fait que j'ai fait des playlists. Fait que vous irez voir ça. T'as les épisodes classés par année, t'as classé par format, puis nos épisodes de lore classés par plan, hein, tu sais, Strixhaven, Innistrad. T'as même mes games en webcam, là, j'en joue pas mal, puis j'ai l'impression que je vais passer l'hiver à jouer des games en webcam. Puis t'as aussi Magic au musée, là, qui sont les games que Tommy Godette a enregistrés. Ouais. T'as notamment sa messe pastafarienne là, que je vous encourage à mettre à votre party de Noël. C'est mieux que mettre, t'sais, comme un bon vieux...
La bûche qui brûle. Là.
La bûche qui brûle, là, ben c'est Tommy Godette avec une bûche qui brûle, puis qui compte ses Wall of Wood. C'est une vidéo qui dure 2h30, ça va faire fureur. T'sais, si vous êtes seul à Noël, là, comme si ça risque d'arriver pour plusieurs... ben vous vous mettrez ça en arrière-fond, c'est très drôle. C'est Tommy Godette qui compte. Combien de Wall of Wood en tout, Tommy?
Presque 5000.
Presque 5000. Donc, c'est 2h30 de Tommy Godette qui compte des Wall of Wood et qui raconte des anecdotes. Ça va dans tous les sens.
Merci à Martin aussi là, qui est venu.
Oui, Martin, le producteur de podcast.com, qui est venu donner main à la pâte de la messe pastafarienne. D'ailleurs, tu en fais une autre le 25, Tommy?
Ça devrait être ça. Là. C'est ça le plan. J'espère que je vais avoir le moral,
l'énergie.
Ouais. Là. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que mon corps se développe des petites douleurs depuis quelques heures. On verra bien. Je reste optimiste.
Au pire, on mettra des reprises. Hein? Il n'y a pas de shame à ça.
Ben oui, c'est on espère qu'on a le droit d'être malade parce que ça arrive à tout le monde. Hein, Nonours? Oui, effectivement. Nonours, il l'aura ces temps-ci. Ben écoutez, je pense que ça nous amène à la carte de la semaine. Cette fois-ci, écoutez, c'est pas n'importe qui. Hein, c'est la présentation. Du pub ludique, l'adversaire, 4303 Sainte-Catherine-Est. Ben oui, tu sais, Emmanuel, il est là des fois. T'es là quand, toi, c'est mercredi?
Ben dimanche? Là, je suis plus là. Ben, parce qu'il n'y a plus personne qui est là.
Oui, il n'y a plus personne
mais,
qui est là.
Mais normalement, ça, je serais là les mercredis soirs pour les soirées quiz. Et puis le dimanche, l'après-midi, mais pas pour travailler, juste pour jouer à Dungeon.
Allez-vous refaire vos Rant Again?
Oui, absolument, tout à fait. En fait, là, il va être peut-être un peu tard à la sortie de l'épisode, là, mais garochez-vous, il va rester une couple d'heures si vous l'écoutez au moment de la sortie. On était ouvert jusqu'à mercredi pour une location pour 3 semaines là, à la place d'une semaine, mais on va sûrement rouvrir là, la boutique de l'autre bord des fêtes pour continuer à faire effectivement de la location et de la vente.
Vous voulez essayer
en attendant de rouvrir le bar.
Mais éventuellement, ben oui, c'est sûr.
Vu que je n'avais parlé dans d'autres épisodes, on était censé faire un gros tournoi Magic à l'adversaire le 30, mais là, ça tombe à l'eau. Fait que ça risque de se transposer sur webcam. Donc, allez sur MTG Old School Montréal le 30 décembre. On risque fort probablement de faire ça par webcam. 93-94, les proxys sont les bienvenus. Magic sur webcam, ça va devenir à mode cet hiver, vous allez voir.
Bon, ben voilà, c'est lancé.
Ça l'est déjà beaucoup pour Commander. Là.
Oh oui, pas mal tous les formats, là, même moderne, il y en a en masse qui jouent sur webcam.
Qui joue
à Magic par webcam.
Il y a des affaires qui changent pas, c'est le beat à bonde, puis on jase la carte de la semaine de l'autre. Là, on n'a aucune idée de quoi la carte de la semaine. J'espère que tu as fait ce qu'il fallait, hein, Jason?
Écoute, je me suis dit, c'est Noël, on va prendre une histoire. Tu sais, l'histoire de Noël, c'est tout le temps le underdog qui gagne à la fin de la soirée. Hein.
C'est vrai.
Fait que je me suis dit que la carte de la semaine, cette semaine, c'est ce que j'appelle une... C'est les cartes après une soirée de draft. T'as tout le temps comme un paquet de cartes qui reste au milieu de la table que personne veut. Hein? On a ceux qui ont fait des drafts en magasin ont tout le temps vu ça. Là. C'est ça les draft chaff qu'on appelle là, qui sert surtout à faire des cotes pour des joints. Là. C'est une commune qui est utilisée comme un couteau suisse dans tous les dans plusieurs sets là, depuis qu'ils l'ont sorti en 2018. Elle est reprise là, reprintée dans set après set. Elle est toujours présente. Puis c'est aussi une façon que c'est la raison pourquoi je l'ai choisi ce soir. Je trouve que c'est un bon design de Magic pour équilibrer. C'est 7 pour le draft, puis que je trouve que c'est quand même une carte qui est quand même décente à mettre dans un sideboard. C'est le bon vieux Return to Nature, petit frère de Naturalize. Return to Nature, c'est un colorless, un vert, un instant. T'as 3 choix que tu peux faire avec. Soit que tu détruis un artefact, soit que tu détruis un enchantement, ou soit que tu exiles une carte spécifique d'un graveyard, n'importe quelle. Donc, c'est pour ça que je dis un couteau suisse. Là. C'est pour 2 mana à te permettre de faire 3 affaires. C'est une carte que moi, généralement, je mets dans mes sideboards. Je la joue même dans mes decks verts en Commander. Tu as tout le temps un artefact ou un enchantement qui vient te faire chier
Commander,
que tu veux péter. ou exiler là, la carte combo là, qui a voulu faire Reanimator dans son graveyard. L'autre aspect que j'aime beaucoup de Return to Nature, c'est que puisque c'est une carte qui reprennent souvent, ben, ils s'en servent beaucoup pour véhiculer l'histoire du set sur lequel on retrouve la carte à ce moment-là. La première fois qu'elle est sortie dans... ça, c'était dans War of the Spark. Elle est sortie avant War of the Spark, je pense. Juste un instant. Non, c'est ça. La première fois, c'est War of the Spark. Ah ben...
Ça terminait rapidement, là, mais ça terminait une évolution parce qu'au début, c'était Disenchant. Il n'y avait pas Naturalize dans le vert. Puis là, ils ont fait Naturalize dans le vert. Puis on a tout fait, qu'est-ce qui se passe? Magic est mort. À quoi ça sert de jouer bleu? Puis là, ben, à un moment donné, ils ont fait Return to Nature. Mais ils n'ont pas rajouté de petits pouvoirs à Disenchant à date. Là. Genre, gagner 4 d'énergie ou une affaire de même.
Ben non, mais t'as des Disenchant que tu gagnes la vie. Là. Mais ça, dans le vert, cette commune-là qui fait 3 affaires différentes, ça sert à balancer les 7. Ils vont la mettre là, des fois pour qu'ils se disent, tu sais, t'as une réponse aux artefacts et aux enchantements qui en ont un peu trop.
Ou des fois, ils vont les mettre sur, mettons, Destroy Target Creature with Flying ou un enchantement.
Ouais. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que ça véhicule du lore. T'sais, comme dans War of the Spark, c'est la carte, ça représente que la nature des Celestia est plus forte que l'aspect plus artificiel du plan de Ravnica. Ça dit dans le favorite text, là, yes, nature is stronger. You don't see little buildings sprouting on trees. Elle fait référence aux champignons qu'on voit pousser sur une hache. C'est les haches des zombies de Nicole Bolas. Ils l'ont reprinté après ça dans Throne of Eldraine, où ce qu'elle était sous la forme de le fameux carrosse qui se transforme en citrouille à minuit.
Sur un target artifact.
Oui, exactement. Long after Magic wore off, the mice still dream of glorious galloping, the tales of fées. Donc, même après que la magie est finie, les souris pensent sont encore des chevaux galopants avec le
corps. Oui, c'est fini là, de devenir géant, les souris, c'est fini.
C'est fini. Dans Theros, Beyond Death, ils l'avaient amené, c'était sous la forme de... C'est la lance du soleil du dieu Eliod. Vous retournerez voir notre épisode 65. Hein? Eliod, à la fin, il se fait bannir dans l'Underworld. Puis là, c'est sa lance, dans le fond, qui est tombée à terre puis que la nature l'a détruit. Hein? Destroy Target Enchantment. Ça dit « Far seeing, Crufix glimpsed the end. Eliod spear cast down and broken. » Crufix, c'est le dieu qui voit l'avenir. Là, puis dans le fond, il a vu dans l'avenir qu'Eliod allait perdre la guerre entre les deux.
Mais
là.
Excuse-moi, là, mais en quoi c'est Noël?
Oh, je me suis pas posé cette question-là, Tommy.
Ah, moi, c'est bon. OK, c'est bon.
Non, on a assez parlé de Noël. J'ai pas choisi une carte de la semaine selon Noël. Là. Mais écoute,
que dans Theros, c'était bon à mettre dans son main board, ça, par exemple.
Oui, parce que s'il y avait tellement d'enchantements dans ce set-là.
Même les créatures étaient des enchantements. Fait.
Puis surtout, la mécanique... Comment ça s'appelait? Donc, c'était...
Escape.
Ouais. Fait que tu voulais viser les graveyards.
Ah, ben oui.
Tu vois, ça a tout le temps son... Ça fit tout le temps. Après ça, ils l'ont ramené dans Midnight Hunt parce qu'encore là, il fallait exiler des graveyards. Elle était sous la forme de... c'est un arbre qui détruit une pierre tombale. C'est encore la tu sais, c'est Return to Nature. Là, c'est le thème de la carte. Ça disait dans le flavor text, Even Steel and Stone Return to Grindanu in Time, signé Catilda Dawn Art Prime. Hein, c'est les fameuses sorcières là, dans Innistrad là, qui vénèrent la forêt. Donc, c'est une carte que, tu sais, que tout le monde est comme habitué à voir et ne porte pas trop attention, mais je voulais montrer à quel point Magic se servait de ça pour balancer les sets et véhiculer une histoire en même temps. Je trouve que d'un point de vue et design de jeu, là, c'est vraiment fantastique. Puis moi, je la joue de plus en plus souvent en draft. Là. J'ai tout le temps des cibles avec.
Oui. Il n'y a pas de moins en moins de manière d'aller jouer dans les graveyard aussi. Fait que c'est ça, effectivement. Les rengaines et tout le reste. Merci beaucoup, Jason.
Je pense que ça va être de retour dans Kamigawa, Neon Dynasty le mois prochain. Ben je vais vous expliquer pourquoi de l'autre bord du beat-a-bow.
Il n'y aura même pas de nature. C'est fini. Il n'y a plus de nature, c'est fini. Est-ce qu'on va aller écouter le beat-a-bow? On va checker ça, on parle de Kamigawa, mais, c'est
là,
ça?
Avant qu'on parle de Kamigawa, Tommy, t'avais l'air triste de ne pas avoir de carte de Noël?
Ben, un peu, là. Je pense, tu sais, il a dit c'est Noël, puis là, il a parlé de Noël, puis là, c'est Noël.
Tu sais qu'à chaque année, Wizards sort une carte Silver Bordered de Noël qu'ils distribuent à leurs amis, les distributeurs, les employés, leur petit cadeau de Noël. Et cette année, et c'était dans la thématique de Innistrad, et ils ont ressorti le couple fameux de frères et sœurs de Innistrad qui sont, Tommy?
C'est le gars qui fait des zombies, là, puis la fille qui est...
qui fait des zombies.
Tout à le nom, là.
Giza et Giraffe.
C'est ça.
Voilà.
Est-ce qu'on va le mettre à l'écran? Ben, oui.
Je l'ai juste dit. Donc, ils ont sorti le Last Minute Chopping. C'est une carte Silver Bordered. Là. C'est pas légal en aucun format. À date, on en reparlera. Un colorless, un bleu, un noir. Une sorcery qui ask target opponent if they remembered to get you a present. If they say yes, they put a card they own from outside the game into your hand. Fait qu'ils te donnent leur cadeau. Sinon, you gain control of target permanent they control. Tu te fais ton propre cadeau. Et j'aime bien le flavor text. Si tu veux
Oui. Dear brother, I couldn't forget you if I tried and I have tried.
On s'appelle qu'ils ont une grosse rivalité sur la photo. Là, vous irez voir là, sur l'image de Giza qui reçoit un bras de zombie emballé.
Il y a
le zombie derrière qui a plus de main, puis elle tient une hache là, dans son dos pour le remercier de la bonne façon. Là.
C'est ça, ouais. C'est ça.
Alors voilà ta carte de Noël, Tommy.
Ben.
C'est l'heure. On parle de Néon. Let's go.
Ouais, Néon Dynasty.
Ben, tu sais comment c'est mort, Magic?
Ouais, écoute, c'est le Magic qui se trempe le pied dans le cyberpunk japonais. J'ai écouté la semaine passée, remonte un peu les mêmes, je vais expliquer chacune des images. Remonte au dragon au début, là. Donc, on voit les fameux 5 dragons de chacune des couleurs de Kamigawa, hein, les gros dragons de Kamigawa. J'ai écouté, vous irez voir ça sur le YouTube. Sur le YouTube de Wizard of the Coast, là, Mark Rosewater, il a un peu parlé de comment ce set-là, comment ils en sont venus à faire ce set-là. Puis il a avoué ben candidement là, que Kamigawa, qui était sorti le premier bloc de Kamigawa, qui était basé sur la mythologie du Japon féodal, sorti à l'automne 2004 et l'hiver 2005, était un des sets de Magic. Probablement le set de Magic qui avait le moins bien vendu dans l'histoire. Ça l'avait vraiment pas pogné. Ouais. Je n'ai déjà parlé, là, ça avait presque tué Magic. Hein, notamment à cause du fameux combo Winter de 2004, là, à cause de Mirodin. Ça avait écœuré beaucoup de monde de jouer à Magic. Il y avait trop de combos forts. C'était pas le fun à jouer. Fait comme Kamigawa est devenu un peu dans l'ombre. Et probablement un des sets les moins connus de Magic. Moi-même, le Sphinx, c'est probablement l'univers de Magic que je connais le moins là, dans toute la gang. Là. Même Mercadia, je le connais mieux que Kamigawa.
Ça hey, bien, on va avoir du lourd de Mercadia.
Fais attention à ce que tu dis.
Hé, on va avoir du lourd de Mercadia!
Réveille pas la bête.
Mark Rosewater, il a dit que dans le fond, c'est dans ce set-là comme Néon Dynasty, là, qui est celui qui sort au mois de février. Ils ont commencé à worker dessus à peu près en même temps que Blade Runner là, était sorti en 2018. À la base, c'était pas censé être Kamigawa. Ce qu'il voulait faire, c'était carrément un set
sur un plan
cyberpunk nippon. Ils ont engagé notamment un gros studio de design d'art japonais là, pour faire les artworks sur les cartes. Non, descends pas tout de suite. Descends pas tout de suite. Gars, je vais juste prendre le partage, si tu permets. On va share le screen. Donc c'est ça. Fait que ça c'est pour la petite histoire de comment ce set-là a été amené. On sait qu'il va y avoir le retour des véhicules et genre beaucoup de véhicules. Ça a été révélé. Puis je pense que ça va cadrer beaucoup avec le set qui sort au mois de mai là, qui est un peu plus gangster Chicago. C'est Street of Capena.
Ouais, New Capena.
Puis j'avais remarqué qu'il y avait quand même pas mal de véhicules. Ils avaient mis une couple de véhicules là, dans les derniers sets. Là, t'avais les Drakkars dans Caldane. Fait que tu sais, on va peut-être avoir un standard véhicule. Donc, tu sais, ça va fitter. Là. On va probablement avoir des véhicules volants dans Kamigawa. Wow. Je devais déjà parler, le monde de Kamigawa, les vieux sets de Kamigawa, dans le storyline de Magic, ça se passait dans le passé. Ça se passait 1000 ans dans la trame narrative du Gatewatch et de Nicole Bolas. Fait que dans le fond, celui-ci, c'est ça, j'avais mentionné que à la base, ça avait été créé sans penser à Kamigawa, mais pendant qu'ils ont développé le set, ils ont dit ben pourquoi pas. Ils avaient une certaine réticence à cause à quel point le branding de Kamigawa avait pas été si fort que ça à l'époque, mais c'était rendu compte notamment à cause des. Parce qu'il y a beaucoup de légendaires dans les vieux sets de Kamigawa. Puis,
ouais, c'est là qu'il avait changé la règle légendaire. Ouais.
Donc c'était le set qui avait le plus de créatures légendaires là, à part Legend puis Dominaria, mais il y a beaucoup de fans de Commander qui se sont mis à triper sur Kamigawa des années plus tard. Puis Mark Rosewater, il dit qu'il y avait un gros fanbase de Kamigawa qui lui réclamait de hey, tu sais comme fais-nous donc plaisir sans un retour à Kamigawa. Fait qu'ils ont comme mélangé les deux là. Le set de Cyberpunk, ils ont dit ben why not, on est 1500 ans après les événements de Savior of Kamigawa.
Ok.
Le monde a évolué, puis ce qui est vraiment cool, c'est qu'ils se sont forcés sur le artwork. On voit ici à l'écran, là, c'est le Eight Gangjo Seat of the Empire, là, qui est l'espèce de le palais de l'empereur de Kamigawa, de couleur noire et jaune. Là, j'aime vraiment le artwork. Ben, ça, c'est le même château que la carte dans le vieux site de Kamigawa qui était Eight Gangjo Castle.
Ouh!
Fait que tu vois, ils ont quand même un peu respecté là, les. Il y a comme une suite. Là. Tu sais, dans le fond, on voit Kamigawa qui a évolué.
Oh, ouais.
T'as la carte Boseiju ou Endure. Hein? Boseiju qui endure. C'est une espèce d'arbre sur lequel on voit plusieurs maisons attachées. Là, des genres de maisons futuristes avec plein de néons. Là. C'est très cyberpunk. Ça, c'est le Boseiju, c'est le plus vieil arbre de Kamigawa et c'est aussi le plus haut. Puis la carte existait dans les vieux sets, le Boseju ou Shelter Hall, qui est une espèce d'arbre sur lequel tu pouvais cacher tes créatures pour les dodger des instants ou sorcery. Non, c'est, il peut pas être countery, c'est ça. Fait qu'il protège tes spells. Dans le fond, dans le monde de Kamigawa, là, le Boseju, il a poussé plus haut que la ville à mesure qu'elle s'industrialise. Donc, ça va être très néon, très mauve, très rose. Il va y avoir, je sais que il y a quelques spoilers qui ont été montrés.
Ouais, je les ai
Si tu veux. Ouais, je les ai. Ben. Tiens, montre les dons. Je pense que tu les as plus regardés que moi, je pense, les spoilers.
He is the master of the spoilers. He is Emmanuel.
Donc, Tommy, qui dit Kamigawa, dit quel genre de personnes qu'on va voir?
Des Asiatiques, des esprits,
des ninjas.
Des ninjas!
Ben là, ouais. Ici, ils ont sorti les Full Arc Land.
Oh, ils vont être des Full Arc Basic Land.
Sérieux, sont malades.
Ouais, c'est vraiment
beau.
Cool.
C'est fou. Depuis une couple de sets, les lands qui sortent.
Ouais. Chaque set, t'as envie de te faire un deck avec ces Basic Land-là. Ouais.
Ça, c'est nice parce que ça montre chaque Basic Land a comme le passé et le présent. Là. Dans le fond, comme on voit Kamigawa comme il était avant hein, sur la plaine. Puis Kamigawa maintenant tout industrialisé. Puis la technique qu'ils ont développée, by the way, c'est pas fait à l'ordinateur. C'est des vraies lithographies japonaises. Là. C'est la technique là, où ils taillent dans le bois. Tu sais, les ancêtres des mangas, c'est un peu ça, là. Ils taillent dans le bois, puis ils passent, ils mettent de la peinture dans les cracks, puis après ça, ils mettent le papier par-dessus. Là. J'ai oublié le nom exact de ça, là, mais ça, c'est très, très japonais comme façon de faire. C'est vraiment des beaux, probablement les plus beaux Basic Land. C'est dans mes tops, là. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, la montagne, une espèce de rue enneigée japonaise, tu sais, comme industrielle, cyberpunk, là. C'est vraiment cool.
La fumée.
Ouais. Comment?
Avec la fumée. Mais oui, bon, les ninjas.
Ouais, on veut voir des ninjas, là.
Les ninjas sont cachés sur le bébé. Oh, peut-être. Ils sont pas allés avec le dos de la cuillère là, pour les ninjas. Ils ont pas fait juste un ninja légendaire. Ils ont fait un ninja Planeswalker.
Écoute.
Kaito Shizuki, le ninja. On voit les trois arts différents. On va zoomer un peu. Qui vient avec son tanuki, là, l'espèce de petit raton Pokémon. Laveur.
Raton laveur origami, là.
Ouais, en version origami robot. C'est donc un ninja Planeswalker, Kaito Shizuki, dans les couleurs des ninjas, donc Dimir. Un colorless, un bleu, un noir, et arrive avec 3 de loyauté. À la fin de ton end step, si Kaito Shizuki est rentré sur le battlefield ce tour-ci, il phase out. Fait que le premier tour, il passe caché. Ça le protège déjà une shot. Et son plus 1, tu piges une carte, ensuite tu discartes une carte à moins que tu aies attaqué ce tour-ci. Son moins 2, tu crées un 1-1 Blue Ninja Creature Token qui ne peut pas être bloqué. Donc ça aide à faire sa première habilité. Et son ultimate pour moins 7, tu reçois un emblème qui dit à chaque fois qu'une créature que tu contrôles fait du combat damage à un joueur, tu cherches ta library pour une carte bleue ou noir qui est une créature et tu la mets sur le battlefield straight up et ensuite tu rebrasses ta bibliothèque. Donc tu
as ton vert, hein? C'est le maître des ninjas pour vrai.
C'est de jujitsu sans sauce là.
Sa sauce, t'as dit?
Ouais.
Aïe, mais c'est cool ça. Finalement, il va comme avoir le leader des ninjas. C'est, même son Magimon, j'y pardonne, c'est correct.
T'as-tu le temps de lire un peu son histoire, Jason?
Pas tout. Mais de ce que
ça vous intéresse, c'est le truc qu'ils ont sorti. Là, ils ont sorti l'histoire de Kaito Shizuki. Là, il y a un texte, là, une short story sur le site de Wizards.
C'est cool, ça, de faire ça.
Tout ce que j'ai vu passer, puis ça l'a attiré mon œil, c'est qu'il est à la recherche d'un antagoniste qui remonte à son enfance, puis qui s'appelle l'homme au bras de métal.
Hein, l'ombre jaune.
Le gars avec un bras en métal. Puis il y a juste un personnage dans Magic qui a un bras en métal, c'est le Planeswalker.
Teferi. Non, l'autre.
Teferet.
Tézeret, on se rappelle, il a un bras fait en Ethereum hein, du plan de Esper et il est maintenant un agent. Ben, en tout cas, on sait qu'il y a le Planner Bridge. Hein, retournez voir nos épisodes de lore, on en a parlé en masse. Mm-hmm. Et il aide la Phyrexie là, à s'infiltrer un peu partout à travers le multivers. La dernière fois qu'il a fait ça, c'est dans Kaldheim. Donc, moi, je pense qu'on va peut-être voir d'autres traces de Phyrexie là, dans Kamigawa. Moi, je pense qu'ils vont commencer tranquillement à mettre la table là, sur c'est quoi les prochains plans des Phyrexiens, parce qu'on sait que l'automne prochain de l'année prochaine, ils refont le remake d'Antiquities là, qui va expliquer en fait le passé des Phyrexiens. Puis c'est clair qu'en 2023, ils vont y aller. Ça va être le gros set de la Phyrexie. Je sais pas comment ça va être présenté, là, mais ça semble.
On est en train de préparer un arc d'histoire qui va pouvoir prendre la place des.
Qui va prendre la place à Nicole Bolas.
Nicole Beau, là.
Petit autre spoiler.
Oui, ils nous ont sorti deux autres cartes. Ils nous ont sorti un dragon, Atsushi de Blazing Sky, un gros dragon pour deux colorless, deux rouges, et qui a Flying Trample, 1-4-4. Classique 4-4 pour 4 Flying Trample, les dragons mythiques qui nous sortent dernièrement, qui nous mettent dindant pas mal. Et quand Atsushi de Blazing Sky meurt, tu choisis un des deux options suivantes. Soit tu exiles les deux premières cartes de ton library et jusqu'à la fin de ton prochain tour, tu peux les jouer, ou tu te crées 3 Treasure Tokens.
C'est sympathique. Donc,
c'est une carte qui est relativement aggro, puis qui a un bonus si tu te la fais enlever.
Sur le art en arrière-fond, on voit qu'il y a des rails de train.
Oui.
Il va clairement avoir un véhicule train.
Legendary Creature Dragon Spirit, les seuls qu'il y avait avant, c'était le cycle qu'il y avait dans Kamigawa aussi, là, avec.
Ouais. C'est leur descendant, en fait. Parce qu'il y en a 4 sur 5 qui ont été tués dans Savior of Kamigawa.
Non!
Fait que je pense que là,
ils imaginent. Ça, des décès, toi, mon Jason!
Ouais. Fait que là, ils ramènent. Parce qu'ils n'ont pas le nom. J'ai remarqué que le nom n'est pas pareil. Là.
Fait qu'on peut se douter qu'il y en aurait 4 autres.
Ben ouais. Il va y avoir les 6, c'est sûr.
C'est qu'on
on n'est pas né de la dernière.
Je suis content que les Treasure Tokens reviennent. Ça, c'est le merveilleux mana fixing, là, les Treasure
Tokens. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça a l'air d'être de plus en plus rouge aussi, là, depuis la générosité du DM de Forgotten Realms. Ramasser du.
Il y en avait dans Kaldheim aussi avec les dwarfs et les
dwarfs blancs et rouges, oui.
Ouais.
Et la dernière carte, c'est un démon. Idetsugu Devouring Chaos. On peut regarder
un peu.
Un ogre démon, pardon. C'est Altwork, c'est Altart qui va sortir néon, là, assez flash en différentes couleurs.
Il paraît qu'ils sont glow in the dark.
Moi, j'ai pas vu ça.
Il a dit ça dans la vidéo.
Ah, bon, ben, tu
Magic va pouvoir mourir quand on va fermer la lumière. On va pouvoir jouer à Magic la lumière fermée.
C'est assez flash, là. Vous irez voir ça. Et donc, c'est pour un ogre démon, Legendary Creature, pour 3 colorless, un noir pour une 4-4, là aussi. Tu peux payer un noir, sacrifier une créature pour scryer 2. Et tu peux payer 2 colorless, un rouge, le taper pour exiler le top card de ton library. Tu peux la jouer ce tour-ci. Et quand tu exiles un non-land card de cette façon, Idetsugu, Devouring Chaos, deals damage equal to the exiled card's mana value to any target. Fait que tu joues, que tu joues pas, tu fais les dégâts quand même. C'est assez musclé.
Tabarnak,
hein? C'est à any target.
When you exile a non-land card, ben oui, effectivement. Wow, hein? Puis ça me rappelle aussi que dans Kamigawa, il y avait une dynamique ogre-démon, là, que il y avait beaucoup de démons comme forme avec des petits casting costs, puis il fallait que tu ailles un ogre en jeu, puisque dans leur mythologie, les ogres, ils géraient les démons, genre. Puis lui, c'était un ogre-démon aussi, il se gérait tout seul. Fait que.
C'est un personnage qui revient parce qu'il y a une carte dans le vieux set de Kamigawa qui s'appelle Idetsugu, ce qu'on vient de voir, là. Mm-hmm. Qui est un ogre rouge légendaire.
Oui, que quand tu te tapes, ça fait le double du dommage à un joueur qu'il a perdu.
Fait que là, j'imagine qu'il a survécu 1500 ans plus tard, il est devenu un démon. Là.
Il y avait aussi la fameuse carte Second Right, là, Idetsugu's Second Right, que si ton target player a exactement 10 de vie, tu fais 10 dégâts à target player. C'était très drôle. C'est une wincon un peu comique.
Ben oui. Il y a Gaël, mon ami, il avait fait, lui, avec... Le celui qu'on tape, là, la version qu'on tape, il avait fait un deck que il y avait la carte qui faisait que chaque joueur perdait la moitié de son énergie. Puis après ça, il tapait lui. Parce que lui, quand tu le tapes, ça fait perdre la moitié de l'énergie. Le double de, en fait, l'équivalent de ce que tu viens de perdre à tout le monde. Fait qu'il fallait que lui ait un nombre impair d'énergie. Puis l'adversaire avait peur, fait que là, lui, il finissait à un d'énergie, puis toutes les personnes qui avaient peur mouraient. Ça avait mis fin de manière cruelle à une game, ça, à un moment donné.
C'est assez niaiseux pour que j'aime ça.
Oui, ben, merci. Ça marche. Hey, je pense que ça nous amène à la fin de l'émission. Merci, messieurs. Je vous souhaite un excellent temps de ce qui est en train de se passer. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais aller essayer de préparer mon show de demain au plus vite là, pour passer à d'autres choses.
Bois beaucoup de liquide, du repos. Ouais. Faites attention, protégez-vous.
Oui. Ben oui, ma vitamine D, mon zinc.
Respectez les directives de la santé publique.
Oui.
Faites pas les fous.
Non, on a demandé à une amie qui est venue nous mener de la bouffe.
Mon message s'adressait à tout le monde.
Ah ouais.
Pas juste à toi. Ben,
sais-tu comment tu l'as attrapé, Tommy? Sais-tu les notes?
Ben, vu.
Par ses goûts.
C'est sûr, là.
Par les goûts.
Il paraît que. Non, je pense que c'est sa gang de d'épée, là, au Mont-Royal, là.
Ah ouais?
Ouais.
C'est ça. Donc, ça s'attrape dehors, en plus?
Ben, non, ben là, il fait fret, fait qu'ils font ça en dedans.
Ah, il faut ça en dedans, ben.
Fait que là, c'est plus contagieux.
Ouais.
Hey, merci Jason, merci Emmanuel. On se reparle en 2022 ou la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on fait le bye-bye 2021. Okay. Soyez présents.
Ça va être voilà. Merci beaucoup à Martin Godette pour le montage et à vous, chers auditeurs, et à l'adversaire. Je pense que c'est pas mal tout. Mon nom est Tommy Godette. Je souhaite à tous et à toutes d'être le moins manascou possible.
De la famille H2O Web Media.